Aujourd'hui, un exosquelette qui a les mêmes caractéristiques que nous, qui tient l'équilibre tout seul, qui n'a pas besoin de béquilles pour fonctionner. Donc, vraiment un truc qui est très autonome, c'est entre 150 et 250 000 euros selon le modèle. Nous, l'idée, c'est moins de 10 000 euros en reste à charge pour le patient et à terme, ce sera remboursé par la sécurité sociale, du moins en partie. Un exosquelette, faut voir ça un peu comme une armure d'Iron Man, en fait, beaucoup plus léger. Et c'est des dispositifs qui sont motorisés, qui vont leur permettre de se verticaliser, d'avoir plus de facilité pendant la rééducation, mais aussi de pouvoir marcher quand on ne peut plus marcher normalement, quand on est paraplégique par exemple.
Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. En parallèle d'un DUT en génie électrique et d'un bachelor à Schema, il se lance dans l'entrepreneuriat avec Might3D et Somanity. Le premier est aujourd'hui un acteur incontournable de l'impression 3D et le second est en passe de devenir une référence dans les exosquelettes. Salut Mathieu, comment tu vas?
Bonjour, ça va et vous?
Nickel. Hyper content de te retrouver. On est un peu rodé là, Paul. Faut qu'on se rôde plutôt, Paul. Ouais. Je venais de dire que ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas enregistré. Pas totalement 6 mois, quoique 4 mois. 4 mois.
Ouais. Bah, très heureux de réouvrir cette session avec vous.
Écoute, avec plaisir. Surtout que là, il y en a moi en Chine, toi qui dois être à Sofia, Paul en Suède. Voilà, un peu.
Non, mais on est international ici.
Exactement. Mathieu, on a parlé un peu de My3D, on a parlé d'exosquelette. Qu'est-ce que c'est un exosquelette? Raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais, en quoi ça consiste, c'est quoi ta boîte?
Un exosquelette, il faut voir ça un peu comme une armure d'Iron Man, en fait, beaucoup plus léger, qu'on vient mettre sur des gens qui peuvent avoir des difficultés, comme des handicaps moteurs, qui ont besoin d'aide pour de la rééducation, par exemple. Et c'est des dispositifs qui sont motorisés, qui vont leur permettre de se verticaliser, d'avoir plus de facilité pendant la rééducation, mais aussi de pouvoir marcher quand on ne peut plus marcher normalement, quand on est paraplégique par exemple.
Off, avant le début de l'épisode, tu me parlais des différentes industries là sur lesquelles vous êtes. Là, tu me parles de trucs assez médicaux, tu vois, retrouver le mouvement, sortir de la paraplégie, etc. Est-ce que c'est les seules utilités, les applications?
Non, si on devait définir les utilisations globales de l'exosquelette, nous on est multimarché parce que encore une fois, ça on en discutait aussi en off, mais pour moi le meilleur investisseur ça reste le client. On peut pas être leader que sur un marché, c'est des marchés qui ont des apports et des besoins différents, donc autant aller chercher aussi d'autres marchés avec nos technos qu'on a développés. On s'est positionné sur le spatial depuis 2 ans maintenant, on est incubé au sein de l'Agence spatiale européenne, qui nous met en contact aussi avec notamment le CNES, avec le MEDES, etc., mais qui nous permet aussi de développer nos exosquelettes sur la partie spatiale. Sur la partie spatiale, c'est un peu de l'exosquelette comme on peut voir dans les films, et qui permettent de garder de la gravité, en fait, de générer de la gravité dans le corps de l'astronaute pour éviter la perte musculaire qu'on peut avoir après de longs voyages spatiaux. Et après, voilà, on a d'autres marchés, comme par exemple la défense, sur lequel on est un peu moins avancé, mais sur lequel on a quand même des points de recherche. Et même, pourquoi pas, à venir de la formation dans l'ultra-formation dans le métaverse avec un exosquelette qui permet de vivre ce qu'on voit dans le casque.
Trop cool. Mais du coup, t'as aussi du software ou t'as que du hardware?
Non, on a les deux, on a les deux. On a d'ailleurs les deux compétences dans l'équipe. On cherche des gens, justement, dans nos équipes, qui sont compétents sur les deux, sur le hard et sur le soft. Et on développe aussi nos softwares en interne, comme le hard, hein, tout est fait à Sophia Antipolis.
Ok, la place de la tech du sud de la France, le Silicon Valley du sud de la France.
On va doubler la Silicon Valley un jour, je sais pas quand, mais on la doublera un jour.
Un jour peut-être. Mathieu, en préparant cet épisode, j'ai découvert qu'il y avait des exosquelettes passifs et des exosquelettes actifs. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que moi, quand tu me dis ça, je me dis passif, actif, on parle de compta.
Ben alors je suis plus passionné par les exosquelettes passifs actifs que par les actifs passifs en comptabilité pour tout avouer. Mais en gros l'exosquelette passif, ça va être un exosquelette qui va être quasiment que mécanique, hein, avec des pistons, des vérins qui vont permettre de pouvoir soulever des charges un peu plus lourdes, d'alléger en fait la charge qu'on va porter. C'est des exosquelettes qui ont des avantages parce qu'ils sont très peu poteaux à faire. Ils sont, on peut monter une chaîne de production rapidement, etc. Le désavantage, c'est qu'il n'y a pas d'électronique. Du coup, c'est très compliqué quand même de pouvoir encore pousser les charges et de dire, ben, on va mettre de l'hydraulique, on va mettre des moteurs pour soulever d'encore plus grosses charges. Mais voilà. Et un exosquelette actif, c'est un exosquelette à contrario qui, lui, est quasiment entièrement motorisé avec des activateurs, des moteurs qui vont permettre de déplacer des charges plus lourdes, de bouger le centre de gravité, de gérer aussi l'équilibre. Ce qu'il n'y a pas avec les exosquelettes passifs qui sont surtout utilisés pour la partie manutention et industrie. Alors que nous, on va vouloir
Si ce magnétique, tu
verticaliser.
fais quoi, toi? Tu fais de l'actif ou du passif? Parce que moi, j'ai
Nous, on
la
fait
réponse,
du.
mais nos chers auditeurs n'ont pas.
On fait de l'actif. On est spécialisé dans l'exosquelette actif. Pourquoi pas le passif à un moment, mais pour l'instant, c'est un marché qui est déjà bien saturé au niveau de l'industrie. On a des innovations dans les tiroirs qu'il va falloir qu'on sorte à un moment pour aller disrupter ce marché aussi, parce que c'est ça qui nous éclate. Mais oui, nous on est spécialisé dans l'actif et dans la motorisation, parce que c'est bah, voilà, de la génération de gravité, de la protection de personnel opérant. Il y a beaucoup plus d'exosquelettes passifs dans l'armée, beaucoup plus de passifs dans nos exosquelettes de l'armée, mais sinon on est spécialisé ouais, dans l'actif, sur le médical et le spatial.
Ok. Pourquoi il y a plus de passifs dans l'armée, tu sais, ou pas?
Parce qu'ils veulent des exosquelettes qui sont plus fins, en fait. Il faut, quand on parle d'exosquelettes défense, faut sortir de l'idée de ce gros dispositif qu'on peut voir dans Edge of Tomorrow avec des moteurs qui permettent de soulever des voitures, etc. Ils veulent des trucs pour que les troupes elles puissent monter dans les hélicoptères, qu'elles soient déployées au sol facilement et qui consomment que dalle en énergie. Ce qui est recherché, c'est avant tout la protection du personnel opérant, que ce soit physique avec bah, du support de poids ou balistique et thermique pour éviter de se faire repérer, de se faire tirer dessus. Mais non, ce qui est mis en avant, ouais, c'est la légèreté. Et donc, quand on parle légèreté, on vient essayer de faire une petite partie qui est prise en charge par des vérins mécaniques.
Et justement, si on devait comparer justement l'exosquelette actif et passif, tu vois un petit peu les pros et les cons, ce serait quoi justement d'un niveau technique? Dans quel cas justement je pourrais pencher plutôt pour l'un ou pour l'autre selon
Bah,
mon
alors, ça va
dispositif?
dépendre bah, du prix surtout déjà de que tu veux mettre. Enfin, je veux
Ok.
dire, surtout si c'est de l'industrie, par exemple, si ton but c'est d'éviter que tes gens ils aient tes employés ils aient des sciatiques ou ils aient des problèmes de dos, tu vas passer sur de l'exosquelette passif, puisqu'en fait il y en a plein en France qui font déjà aussi ça bien hein, au niveau des exosquelettes passifs. Et tu vas passer là-dessus parce que c'est beaucoup moins cher, t'as pas des besoins de soulever des gros poids. L'idée ça va être de dire bah, je vais alléger le poids que je vais porter de 20 à 30 kilos pour n'en avoir l'impression que n'en porter que deux ou trois. Et ça, les exosquelettes passifs le font très, 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 très bien. Après, demain, tu veux pouvoir faire beaucoup plus d'inclusion dans ta société, faire verticaliser des patients qui sont paraplégiques et qui normalement viennent travailler en fauteuil roulant. Ben, là, tu auras besoin d'un exosquelette actif qui voudra aussi gérer la partie équilibre.
Tout à l'heure, tu nous parlais de la volumétrie des exosquelettes. Est-ce que les exosquelettes par défaut, ils traitent le supérieur, l'inférieur? Est-ce que les tiens, ils traitent plutôt l'inférieur ou plutôt le supérieur? Est-ce que, voilà, si
Ça
tu
va
peux nous parler
dépendre
de
du
ça?
marché. Ça va dépendre du marché. Ça va dépendre du patient. Ça va dépendre du client. Ça va dépendre du marché, puisqu'il y a des marchés qui sont pas intéressés par le haut du corps. Ce qui n'est pas le cas du spatial et de la défense, puisque nos très chers soldats et astronautes ont des bras et un torse. Du coup, là, on va être plutôt sur des exosquelettes qui vont couvrir le haut du corps. Sur la partie handicap moteur, en fait, sur la partie haut du corps, c'est plus compliqué, parce que par exemple, quand on a de la tétraplégie, il faut un moyen de piloter aussi ces moteurs. Ce qui est assez simple pour le bas du corps, puisqu'en fait, enfin, assez simple entre guillemets, mais puisqu'en fait, on veut juste faire avant, arrière, gauche, droite. Il n'y a que quatre directions. Quand on parle de mouvement du bras et de la main, c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes. Il y a des degrés de préhension et des degrés de rotation du bras. Il y a beaucoup plus de points de rotation. L'épaule est quelque chose de très, très complexe, même si on pourrait penser que c'est juste quelque chose qui nous permet de lever le bras. Donc, toutes ces choses-là, bout à bout, font que pour l'exosquelette complet, pour les personnes atteintes de handicap moteur, c'est compliqué. Et de notre côté, du coup, il faudrait qu'on attende des avancées techniques majeures en termes de pilotage neuronal, notamment pour dire, par l'esprit, je fais lever mon bras ou je fermer ma main.
Avec les dernières puces de Neuralink, ça devrait arriver rapidement.
Ouais, plus de Neuralink, j'espère juste qu'il sortira un truc comme l'App Store, comme ça on pourra juste faire du soft, ça nous coûtera moins cher que de devoir développer du hard aussi sur la neurologie.
Comment t'en es venu à faire des exosquelettes, toi?
Alors moi j'avais déjà My 3D depuis quelques temps, qui est l'entreprise du coup d'impression 3D. Pour résumer, pour ceux qui connaissent pas My 3D, c'est une boîte qui fait du porte-clés comme de la pièce ultra technique pour Ariane 7. pour la future fusée de l'ESA. Donc c'est très très large en termes de variation et en termes de produits qu'on fait. Et un soir, j'ai un pote à moi qui est atteint d'une sclérose en plaques et qui se passe la soirée, on regarde un film où il y a un exosquelette, puis à la fin il me dit, mais en fait c'est ça qu'il me faut. Et je lui dis, bah, moi je cherche un projet deep tech et j'avais déjà fait du biomédical avant parce que pendant le bac j'avais pu créer une prothèse de bras pour un pote à moi qui est amputé. Et je me suis dit, bah voilà, c'est le projet MedTech que je cherche, et My 3D va nous permettre de financer ça aussi. Donc allons-y. Et le lendemain, en fait, je me suis réveillé, j'avais fait déjà deux trois croquis sur mon ordi avec des plans, puis je me suis dit, l'idée est peut-être pas si conne que ça. Et puis lançons ça, quoi. Et on s'est retrouvé à pitcher ça dans un cours à Schema. Il fallait pitcher une idée d'entreprise. À la fin, on avait même fait un premier proto d'exosquelette en 3 mois. Et j'ai pitché ça devant un prof avec le proto d'exosquelette. Et à la fin, le prof a dit, mais vos chiffres sont pas si déconnants que ça. Il y a une belle histoire derrière. On peut aussi dire que, bah, vous avez des éléments de différenciation qui sont quand même importants. Donc, bah, pourquoi vous lancez pas là-dedans? Et c'est vraiment ce qui a débloqué le truc aussi, ce qui a fait dire, bah, bon, on va faire des exosquelettes.
Trop cool, mais du coup, tu reproduis le mouvement du corps ou tu
Ouais.
suis le squelette?
Alors, ça va
Ok, tu
dépendre,
reproduis
pareil,
le
de la
mouvement.
techno. Sur du maintien, par exemple, si on est une personne âgée qu'on a envie de rester à domicile et qu'on sait encore marcher, on vient juste suivre le mouvement et amplifier le mouvement pour éviter la chute. Donc on vient calculer le centre de gravité, etc. Pour des personnes qui n'ont plus l'usage de leurs jambes, par contre, là, on vient aussi, bah, suppléer cette marche, avoir des algorithmes de marche qui sont entraînés par IA, par nos IA, qui apprennent à marcher comme un humain et à réagir en fonction des situations. Et tout ça, on va le mettre bout à bout derrière pour arriver à avoir quelque chose qui est une cinématique de marche humaine et qui permet à des gens de se déplacer.
Sur le spectre de maturité de la technologie, parce que c'est vrai que c'est quand même, je dirais, le use case qui est le plus fascinant, de dire qu'on peut redonner justement des capacités motrices à quelqu'un. Aujourd'hui, on en est où? C'est-à-dire à quel point c'est vraiment une technologie qui commence à être fiable et avancée là-dessus?
Bah, on a beaucoup de concurrents qui sont avancés aussi sur ça, hein, notamment sur la phase d'essai clinique. Nous, on vient disrupter le marché en disant que, bah, ce qu'ils font pour 250 000, on va le faire pour 10 000 euros.
Ok.
Ce qui est un gros, gros changement de prix.
Ouais.
Mais voilà, nous, en termes de maturité techno, où est-ce qu'on en est? On a la validation mécanique, ça veut dire que, bah, notre exosquelette, on va tester, il marche. On va implémenter notre nouveau design que je montrais à Arthur en off avant de commencer, qui normalement sera dévoilé en tout et pour tout à VivaTech. On a un nouveau design qui va être totalement novateur par rapport à ce qui est fait au niveau des exosquelettes classiques. Quand on a eu nos designers, on a eu deux lead points sur le design. On a eu un mec avec qui on avait fait un atelier qui est atteint de paraplégie et qui nous a dit, moi je veux un exosquelette où les gens ils ont envie d'être handicapés. Donc, ben, le mec, quand il t'a dit ça,
C'est pas mal comme mission quand même.
c'est ça,
C'est
il
pas
a tout
mal.
dit, il a rien dit, mais en fait, il a tout dit, il s'est dit, bon, ok, donc il faut que je fasse un truc assez sexy pour que les gens qui sont valides aient envie de le tester. Et après, on allait voir nos designers, c'est le deuxième lead point, on leur a dit, voilà, on veut un truc qui a envie d'être porté, on veut un truc, demain, il y a un reportage sur Apple qui se lance dans les exosquelettes, on veut qu'ils aient le même design que nous et qu'on y ait pensé 5, 6 ans avant eux, quoi. Donc, c'est l'idée du design qu'on va sortir, c'est d'avoir un truc qui redonne aussi un peu de dignité, parce que, bah, c'est pas parce qu'on fait du dispositif médical que ça doit ressembler à du dispositif médical. Ça, c'est un truc pour lequel on se bat depuis le début. Faut que ce soit beau, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on doit avoir un truc qui crie, je suis handicapé.
C'est marrant que tu cites Apple, parce que je pense qu'on ne devrait pas tarder de voir des gens se balader dans le métro avec des
Ouais.
casques Apple Vision Pro. Dans combien de temps tu penses qu'on verra des gens se balader avec des exosquelettes dans la rue,
Ah, étant
au
donné
travail?
qu'on, alors, aux
Bien.
États-Unis, ce sera peut-être plus rapide puisque, bah,
Ouais.
nous, les marchés sur les États-Unis et la FDA sont beaucoup plus rapides pour nous répondre. Donc, on lancera peut-être aux États-Unis avant ou dans d'autres pays qui suivent aussi la FDA. Mais sur la France, avec les délais, incompressibles et gigantesques de la validation médicale, normalement en 2028.
D'accord.
Du coup, tu vas aux
J'imagine que
US
ça.
avant ou...
Ça va être une décision qu'on doit prendre aussi. C'est une décision qui va être accoudée à une levée de fonds ou pas, parce que les US, c'est beaucoup plus rapide, oui, mais par contre, il faut un fonds d'assurance qui n'est pas le même du tout qu'en France, puisque c'est quand même le pays spécialiste de je te colle un procès parce que ton exosquelette, il est bleu et je l'ai commandé en rouge. Donc, il va falloir qu'on soit prêt aussi là-dessus. Donc, c'est des grosses structures. Et pour aller aux US, il faudrait, ouais, entre 10 et 15 millions, pour être honnête. Donc après, c'est des trucs qu'on pourra déjà financer avec des exosquelettes de rééducation qu'on va lancer, qui demanderont beaucoup moins de choses, que c'est encadré par la partie médicale. Et du coup, si après c'est pour X ou Y raison, c'est pris en charge par les cliniques privées aux États-Unis. Mais il faut qu'on fasse attention aussi, quoi. Nous, on est sur de la techno. Après, voilà, faut les validations médicales. Ça prend du temps et tous les marchés ont leur côté, leur mauvais côté.
On fera qu'on en parle en off, ça. Parce que, en ce moment, je taffe sur un truc qui est connexe. Mais bon, bref. Paul, je crois que tu avais une question. Je te coupe la parole.
Non, bah, je disais que l'exosquelette rouge, à l'Iron Man, elle a l'air quand même vachement plus stylée.
Ouais.
Mais sinon, du coup, j'imagine que vous avez des gros enjeux sur les mécanismes aujourd'hui pour, justement, pour le guidage. C'est quoi les grosses problématiques aujourd'hui quand on crée un exosquelette sur justement bah, pouvoir avoir des mouvements qui soient fluides, etc. Comment aujourd'hui avec la technologie vous...
La cinématique de marche. En fait, tout réside dans la cinématique de marche.
Ouais.
On pense tous que marcher, c'est quelque chose de super simple parce que on le fait tous les jours. Mais vous avez un nombre de muscles qui s'activent dans votre corps. Vous avez un nombre de réseaux de neurones qui se met en activation juste pour vous faire garder l'équilibre, qui est juste phénoménal, quoi. Et de reproduire ça à faible coût, puisque c'est ce qu'on veut faire aussi avec Somanity, mais aussi de manière sûre et 100% sûre sur la façon dont on le fait. C'est super compliqué. Donc, heureusement, aujourd'hui, l'IA est là. Après, on a toujours des exceptions comme Boston Dynamics qui nous pondent des robots qui marchent sans IA et juste avec des algos. Après, on a ni leur budget, ni leurs ingénieurs.
Oui, ça va.
Mais ouais, ça va être l'équilibre. Après, nous, ça va être surtout aussi sur l'analyse d'environnement. Parce qu'on veut avoir des algos qui permettent d'analyser l'environnement. On a beaucoup de concurrents qui vendent le pilotage cérébral en mode, on va piloter les exosquelettes en pensant à avancer. Ça nécessite beaucoup de rééducation. La techno est pas prête puisque, en labo, ça marche, mais quand vous êtes dans la rue, vous devez éviter les voitures, les passants, les gens qui vous parlent, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, nous, on se base sur le fait de dire, on va rester sur ce que les gens savent faire depuis le début, avoir un joystick. Et puis quand on va pousser, qu'on va avancer tout droit devant un escalier, c'est ça qu'il faut monter l'escalier, donc on a le calculateur qui va monter l'escalier.
Donc vous avez travaillé avec des professionnels justement de la santé.
On est en train de sortir un partenariat là, d'ailleurs labo, notamment sur un iLab qui j'espère se concrétisera, on aura la réponse en juin-juillet, mais sur justement des labos de Sophie Antipolis qui sont spécialisés sur l'analyse spatiale d'environnement, sur de l'embarqué. Donc après, c'est des technos qu'on va développer qui pourront servir sur du multimarché, hein, sur du drone, etc., puisqu'on vient gérer de l'équilibre et de l'analyse d'environnement. L'idée, en fait, pour caricaturer, c'est de faire un affichage Tesla beaucoup plus amélioré et qui, au lieu de tenir dans une voiture, tient dans l'équivalent d'une puce de la taille d'une puce d'iPhone, quoi.
Okay. Ça, c'est j'imagine. Est-ce que c'est possible de se blesser entre guillemets justement avec un exosquelette, c'est-à-dire s'il est mal conçu, par exemple d'avoir je sais pas une déchirure ou en tout cas qui fasse faire un mouvement qui soit pas forcément naturel pour le corps.
C'est alors, quelque chose qui est regardé. Au niveau des, il y a beaucoup de nos concurrents qui, notamment sur certains pays où il y a moins de régulation que chez nous, qui n'ont pas de ces verrouillages mécaniques et qui ont que des verrouillages software en fait, de dire ça doit pas aller au-delà de tel point. Nous, l'exosquelette a du verrouillage mécanique, donc en fait, tu ne peux pas te blesser en tant que tel avec un mouvement qui serait pas prévu, puisque le moteur va bloquer en termes mécaniques déjà avec une butée en acier. Donc, et si la butée casse, le moteur est capé au niveau de la résistance matériaux pour briser à cette hauteur-là. Donc, le moteur cassera avant de pouvoir passer le mouvement. Donc on a une double sécurité là-dessus, une triple avec la sécurité software. Après il y a toujours le risque de chute, hein. Ça reste des robots, c'est un peu comme nous à terme. Enfin si on te pousse fort, tu vas tomber. Nos robots aussi, si tu les pousses très fort, ils vont tomber. Étant donné qu'en plus on a de l'humain à gérer, c'est pas comme du Boston Dynamics où eux le robot il a un centre de gravité, ça bouge pas. Nous notre robot il a un centre de gravité qui est variable en fonction du patient, de sa pathologie.
Ok, c'est vrai. D'ailleurs. C'est pas quelque chose auquel j'avais pensé en amont, mais est-ce que c'est possible justement de créer des modèles, on va dire, un peu génériques, où en fait il faut un modèle qui soit un peu adapté à chaque physionomie.
Nous c'est ce qu'on fait. C'est en fait on a la taille de l'exosquelette est réglable. on a des parties qui sont injectées à terme pour l'industrialisation, mais qui peuvent être aussi imprimées en 3D sur des pathologies très spéciales. On est en passe de développer une IA justement qui permet d'adapter le comportement de l'exosquelette en fonction du handicap, toujours bien sûr avec le contrôle d'un médecin et les accompagnements des médecins maintenant qu'on a au board, et du praticien qui va suivre le patient derrière. Mais l'idée, c'est vraiment de faciliter ça et de dire, ça peut paraître utopique, mais nous, notre but à la fin, c'est de faire un exosquelette qui permettra à n'importe quelle personne atteindre n'importe quel handicap moteur de pouvoir se verticaliser, marcher et faire comme elle veut, quoi. Et encore une fois, le jour où on a d'autres marchés, c'est pour ça qu'on a d'autres marchés, notamment sur la rééducation aussi au niveau du médical, parce que les Suisses sont très forts dans ce qu'ils développent là, avec les puces qu'ils mettent sur la moelle épinière pour faire marcher des gens qui normalement peuvent plus. On a toujours besoin d'exosquelettes pour la rééducation. J'espère qu'on n'aura plus besoin à terme d'exosquelettes pour des gens qui sont handicapés, parce qu'on arrivera à les refaire marcher via des opérations, etc. Et ce jour-là, on sera les plus heureux du monde. Ça veut dire que on est un peu une boîte avec un but d'ONG de refaire marcher des gens atteints d'un handicap moteur. Le jour où il y aura plus de personnes qui auront besoin de nos exosquelettes pour remarcher, on sera les plus heureux du monde. On aura prévu la situation, on aura d'autres marchés aussi. Mais voilà.
Super. Serge, toi, tu avais des questions sur les limitations avant qu'on rentre peut-être.
Je me pose une grande question. C'est que Mathieu, tout à l'heure, tu me dis, faut que je fasse gaffe avec le poids de mes exosquelettes. L'énergie que je connais qui fait le moins de poids, c'est soit t'as un micro-réacteur nucléaire. D'ailleurs, on a fait un épisode là-dessus, mais je pense que c'est quand même un peu lourd. Ou alors, t'as de l'hydrogène, mais l'hydrogène, ça fait du volume. Si t'as des batteries, c'est hyper lourd. Comment tu fais pour allier autonomie, énergie? Comment t'alimentes tes trucs? J'espère que c'est pas je les branche dans une prise. Parce que autrement, ça va être compliqué.
Si. Et on leur fournit des rallonges de 3 km et en fait, ils déroulent. Et donc, ils peuvent, c'est le cas où il y a le Covid qui revienne et qu'on avait le droit de sortir jusqu'à 1 km de chez nous. Ben, on peut réduire la taille des prises et comme ça, on peut contrôler les gens. C'est facile.
Ouais, ça m'énerve, les pinceaux.
C'est ça. Non, mais, nous, ça a été un gros dilemme au niveau de l'énergie, puisque la meilleure, source de production d'énergie, ça reste le corps humain, parce que quand on voit ce qu'on dépense pour faire bouger tout ce qu'il y a à faire bouger et en termes d'efficacité énergétique, c'est compliqué de faire mieux. Et du coup, on s'est dit comment on va faire pour faire ça, mais dans un robot. L'hydrogène, c'est très volumineux, donc on travaille aussi sur de la miniaturisation de génératrices à hydrogène. Hein. On avait pu en discuter aussi. Mais pour l'instant, l'idée, ce sera de partir sur de la batterie. Le mini réacteur nucléaire, on va pas essayer tout de suite parce que étant donné qu'il y a déjà des gens qui sont anti 5G, si on leur explique qu'on va leur mettre un réacteur nucléaire dans leur dos, je pense que ça le fera pas. Et puis je pense pas que l'Agence régionale santé nous laisse faire ça. Mais on va partir sur des batteries. L'idée, c'est de dire, nous, on a en plus de l'impact social une volonté d'impact RSE. Donc on le dit, mais on le prouve aussi puisque on a fait des études justement d'impact carbone de nos exosquelettes qui sont très très faibles. Qui vont passer dans le négatif d'ailleurs sur les premières phases d'industrialisation. Toutes les batteries qu'on va utiliser sont justement des batteries recyclées issues des trottinettes électriques ou des voitures électriques. Donc on vient récupérer les petites power cells qui sont encore bonnes. On vient les faire tester par une société avec laquelle on va être en partenariat et qui derrière nous fournit des batteries 100% recyclées. Donc on a pas de batteries qui sont du neuf ou qui viennent justement de mine ou quoi. Donc c'est vraiment du 100% recyclé là-dessus.
Ok, canon, et tu vas arriver à faire du 100% made in France ou
Ce sera du 100% made in France sur les batteries. L'aluminium, ça reste compliqué. Sur le plastique, on va sourcer 100% made in France sur du plastique recyclé. L'aluminium, ça reste compliqué parce qu'avec la guerre en Ukraine, le cours de l'aluminium a explosé. Nos coûts de revient aussi. On essaie de sourcer en Europe au maximum, mais de pas dépasser l'Europe pour ça.
Et tu sais, quand on parle de Maïdine, de lieu de production, on a envie de te parler de coûts, de prix, d'accessibilité. Là, on parle quand même de personnes qui sont en situation de handicap. Souvent, ce ne sont pas des personnes avec les plus hauts revenus. Combien ça coûte ton exosquelette? Combien ça coûte l'exosquelette des concurrents? À quel point t'es accessible? Est-ce que c'est remboursé par la Sécu? Je veux tout savoir, je vais en acheter un demain.
Alors, nous, notre exosquelette, il est à très faible coût puisqu'on est quasiment 25 fois moins cher que le concurrent le plus haut. Aujourd'hui, un exosquelette qui a les mêmes caractéristiques que nous, ça veut dire, je parle d'un exosquelette qui tient l'équilibre tout seul, qui n'a pas besoin de béquilles pour fonctionner, parce que ceux-là, vous en trouvez des 40 000 aux États-Unis. Donc, vraiment, un truc qui est très autonome, c'est entre 150 et 250 000 euros selon le modèle. Nous, l'idée, c'est moins de 10 000 euros, on reste à charge pour le patient. Donc aujourd'hui, on est en train de voir les possibilités de remboursement. Et à terme, ce sera remboursé par la sécurité sociale, du moins en partie. À côté de ça, pour les gens qui ont vraiment pas les moyens, on a la volonté de monter une fondation. Ça s'appellera pas la Fondation Somanity, mais qui aura un autre nom, By Somanity, qui aura plusieurs tierces missions, notamment sur de l'humanitaire, avec trois pôles missions complets. La première, c'est l'aide au financement d'exosquelettes pour les gens qui n'ont vraiment pas les moyens, ou de dispositifs de mobilité. On se concentre pas que sur les exosquelettes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pas envie d'être en exosquelette et qui ont juste envie d'avoir un fauteuil roulant électrique. Mais un fauteuil roulant électrique, c'est pas remboursé totalement, voire pas du tout, selon les modèles. Donc, de pouvoir les aider à acheter ça aussi. Ça va être de l'envoi et la fabrication de prothèses pour justement des gens qui ont été amputés dû à la guerre, etc., dans des pays où on n'a pas obligatoirement les moyens de s'acheter des prothèses. Donc, sur des prothèses qui sont entièrement imprimées en 3D, avec l'envoi d'imprimantes 3D, de gens qui ont la connaissance dans l'impression 3D pour faire des prothèses mécaniques à très faible coût. Donc là, on parle de prothèses imprimées en 3D entre, voilà, qui coûtent entre 10 et 20 euros. Ce qui est très, très faible pour la prothèse mécanique. Et à terme, on aimerait aussi faire du financement de start-up, et d'autres fondations, hein. Notamment là, on est sur un financement de fondation à Madagascar pour créer des écoles, etc. Mais aussi sur du financement de recherche, sur des startups qui peuvent être prometteuses, sur lesquelles nous on n'a pas eu la chance d'avoir ça, de dire bah voilà, on veut faire de la medtech, mais on n'est peut-être pas obligatoirement issu de labo, mais on a une idée qui peut être révolutionnaire pour aller toper des pathologies qui sont pas obligatoirement bien topées aujourd'hui et qui ont ce problème de financement, donc de pouvoir aussi abreuver dans ce sens-là, etc., etc. Mais voilà, sur des chercheurs qui veulent passer du stade recherche au stade startup, parce que faire de la recherche, c'est très très bien, il faut beaucoup de chercheurs, mais il faut aussi des gens qui créent de la valeur dans le pays, et on crée de la valeur en créant des entreprises. Et donc il faut pousser de plus en plus ces chercheurs à dire bah maintenant que vous avez les solutions, sortez les solutions des labos. C'est de plus en plus fait, hein, mais sortez les solutions des labos, allez les vendre, et puis nous on vous accompagne pour le gap que vous pouvez avoir aussi entre le moment où vous sortez du labo et vous vendez. Bien qu'il y ait déjà beaucoup de dispositifs, notamment le iNov, le iLab, etc., le iPhD aussi. Mais nous, on veut venir voilà pouvoir aider peut-être les startups qui avaient plus la même tête que nous au démarrage et qui ont peut-être pas la chance d'avoir un gros réseau ou quoi. Donc on a vraiment
une dispositif de la BPI dont tu parles.
Ouais. Après, les dispositifs de la BPI, c'est bien, mais nous, on est une startup qui ferme beaucoup de cash. Donc, au début, si on n'avait pas eu My3D qui nous finançait, on aurait été mort dans l'œuf. Hein. Donc, l'idée, c'est de devenir abreuver sans sens, mais toujours avoir ce côté humanitaire qu'on veut porter via des connaissances qu'on a sur de la medtech, en faisant des prothèses pour les gens qui sont amputés, en amenant de l'impression 3D aussi dans des endroits très reculés, mais avec des imprimantes qui sont 100% autonomes, donc avec lesquelles on peut ramasser du plastique, recycler le plastique et derrière faire de l'impression 3D pour vraiment avoir quelque chose d'autonome sur le circuit court, etc. Et d'aider aussi le maximum de population en utilisant la bannière qu'on a de l'exosquelette et d'aujourd'hui tous les gens qui connaissent notre projet pour dire maintenant, en plus de connaître notre projet, faites des dons sur cette fondation et on va pouvoir aider plus de personnes et couvrir aussi d'autres termes de handicap, parce que on nous le dit souvent, mais c'est vrai, il n'y a pas que le handicap moteur, il y a plein d'autres handicaps qui sont visibles et invisibles et sur lesquels il faut faire attention et faire avancer la recherche aussi.
J'ai une question justement.
Vas-y, Paul.
Est-ce que c'est justement imaginable dans quelques années aussi, par exemple, qu'un particulier puisse imprimer lui-même son exosquelette passif, par exemple,
oui,
chez lui?
Oui, très, très. Enfin, aujourd'hui, on voit sur les innovations techno, parce que nous, sur My3D, on suit toujours les innovations d'impression 3D. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont une carte mère en 3D, etc. Donc, je pense qu'à terme, on aura tous une imprimante 3D chez soi et on pourra commander son truc sur Amazon et on le recevra imprimé en 3D, on l'imprimera en 3D. Ce sera dans, quelques dizaines d'années, voire une centaine d'années, mais à terme, on aura tous une imprimante 3D et puis Amazon ne sera plus qu'une plateforme de commande de données en ligne et puis on fera peut-être notre bouffe aussi avec de l'impression 3D. Enfin, ouais, on a vu dans qui veut être mon associé dernièrement, là, une dame qui a imprimé des pâtisseries en 3D. Voilà, c'est des trucs qui sont, okay. Qui permettent des choses qu'on peut pas faire avant, donc, pourquoi pas.
Mathieu, j'aimerais revenir juste 40 secondes, même si le temps nous presse un petit peu, sur la manière dont vous financez, parce que c'est assez exotique, c'est assez original. Comment vous avez avancé pour l'instant? Le fait d'avoir deux boîtes, une boîte qui tourne quasiment automatiquement avec pas grand chose, mais qui est en cash, et une boîte qui crame le cash. T'as presque fait un VC en interne.
Oui.
Raconte-moi un peu comment c'est arrivé et puis à quoi ça ressemble aujourd'hui, tu vois. Et puis même
C'est
qu'est-ce que c'est My
que
3D rapidement, etc. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais.
au début, enfin, on avait déjà My 3D, mais en fait, My 3D, pour résumer très rapidement, c'est une boîte qui vend de l'impression 3D, vend de la formation, vend du conseil technique, de l'audit, du consulting, et de l'accompagnement startup. Donc, on fait aussi, par exemple, il y a une start, il y a des beaucoup de startups d'ailleurs qui viennent nous voir, qui me disent, bah voilà, j'ai envie de faire mon produit, je sais pas comment faire, donc je sors d'école de commerce, j'ai juste l'idée. Donc, on va leur faire le prototype, la recherche, et on va les accompagner jusqu'à l'industrialisation, jusqu'à aller leur sourcer les fournisseurs en France, sur notre parterre de fournisseurs qu'on a. On va même les accompagner là avec une nouvelle offre qu'on a lancée où c'est full package. On fait le produit, le site internet, les cartes de visite, le logo, l'industrialisation, etc. Toujours dans une phase d'accompagnement avec le porteur de projet qui nous accompagne sur sa vision. Et on vient vraiment aider sur cet aspect technique. Et en fait, je me suis rendu compte de l'importance de My3D quand on faisait du cash et puis on avait Somanity de l'autre côté et puis on m'a regardé, je dis, on va faire remarcher les gens pour moins de 10 000 euros. Les gens ont dit, ouais, mais t'es ni ingénieur ni médecin, donc va te faire foutre en fait. Et j'ai dit, mais comment ça? Je dis, non, je sais pas, moi je veux me battre pour mes idées, etc. Et le seul moyen de me battre pour mes idées, c'était de les financer moi-même. Et j'ai toujours cette phrase qui, je saurais pas vous dire qui l'a dit en premier, mais qui a été confirmée par mon père qui est restaurateur et qui lui, avant, était dans tout ce qui était événementiel, etc., mais qui m'a redit quand j'ai monté ma première boîte, n'oublie jamais que le meilleur investisseur, c'est ton client. Donc là, aujourd'hui, voilà, on est arrivé à un stade
C'est
où
une
on a
bonne
un autre.
phrase, c'est une phrase qu'on n'entend pas assez dans la tech.
C'est une phrase qu'on n'entend
Ouais.
pas assez dans la tech. Aujourd'hui, mine de rien, on a un exosquelette qui est valide mécaniquement. On va commencer la certification médicale. On a financé notre design final. On a un exosquelette qui marche et on s'est débrouillé tout seul. Alors que
Évidemment.
beaucoup de gens nous disaient qu'on n'y arriverait pas. Après, moi, je marche aux gens qui me disent que j'y arriverai pas. Ça me motive. Mais ouais, je suis fier de ce qu'on a accompli, même si demain ça se plante, etc. On aura quand même monté une boîte dans la deep tech et la med tech, avec trois imprimantes 3D, quoi. Et ça, c'est non négligeable.
Et du coup, l'idée, c'est quand même de faire un petit tour de table, une petite levée ou...
Ouais, l'idée, c'est quand même de faire peut-être une petite levée pour accélérer les choses, surtout. C'est ce qu'on essaie d'expliquer, en fait. C'est que nous, on peut continuer comme ça et rouler, mais ça va prendre un peu plus de temps. Aujourd'hui, on est sur des tarifs qui sont incompressibles. Parce que jusqu'à maintenant, on contrôlait tout. On contrôlait la R&D, on contrôlait le software, on contrôlait les équipes, on contrôlait le temps qu'on y mettait. Demain, on va faire de la validation médicale et de la certification. Demain, on va être certifié en tant que dispositif médical. Et ça, c'est des prix qui sont très, très chers. C'est une mafia, très, très grande, qui cale des tarifs très, très élevés, des fois, pour des trucs qui sont pas très, très justifiés. Et c'est beaucoup de temps. Et ça, il faut le financer. Après, demain, si on a un nos marchés qui décolle, qui ne nécessite pas de validation médicale, bah, on pourra s'autofinancer aussi. Mais ouais, l'idée, ce serait de faire, ouais, pourquoi pas un petit tour de table de 2 millions, voilà, qui peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais qui pour eux de la medtech
Non.
est pas énorme du tout, du tout, du tout, quand on voit combien nos concurrents ont levé pour arriver au même stade que nous. Donc voilà.
Attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
Et est-ce que tu vois des petites tendances émerger, des tendances de fond sur la robotique et la medtech? Je pense par exemple à une boîte dans la Silicon Valley dont le nom m'échappe, mais peut-être Figma AI ou Figma AI, je sais plus. Peut-être que t'as le nom de la boîte en tête qui vient de lever avec Zuckerberg, avec OpenAI, etc., qui a vocation à automatiser, à faire des robots qui vont produire des voitures. Donc totalement automatiser les usines de production de voitures, qui le sont déjà en partie, mais pas totalement, avec des robots qui ressemblent réellement à des humains. Pas mal de petites boîtes qui arrivent comme ça. Comment tu vois les choses évoluer sur ce marché?
Il y a beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui dans la robotique. On a de tout. Moi, j'ai eu la chance de voir le Tesla Bot. C'est impressionnant. J'ai la chance aussi de voir des robots de Boston Dynamics. C'est impressionnant. Ce qui aujourd'hui arrive à être fait, pour certaines personnes, ça peut juste faire un effet waouh. Mais nous, on voit avec le regard technique derrière de ce qui a été fait, et on se dit ok, d'accord, les mecs ont un certain niveau. Il y a cette question de dire est-ce que ça va remplacer le travail de l'homme? À terme, oui, mais pas dans tout. Enfin, c'est la même problématique que quand il y a eu la première industrialisation, que voilà, tout le monde était dans les champs et que depuis on utilise des tracteurs. Aujourd'hui, ça paraîtrait inconcevable de cultiver un champ sans tracteur. Donc, on va être sur le même degré d'acceptation. Enfin, ça va prendre du temps. On pourra pas remplacer l'humain partout, à mon avis. Il faudra qu'on apprenne à côtoyer l'IA aussi. Ça va être un travail de fond. Après que les gens se rassurent, on est très 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 loin de remplacer tous les métiers par l'IA et par des robots parce que bah, ça reste limité en batterie, en charge, ça reste limité dans la façon, dans les mouvements qu'ils pourront faire, on reste limité dans la force des moteurs qu'on va pouvoir avoir et dans la réflexion. Aujourd'hui, la vraie valeur de l'homme, c'est la créativité. Et c'est la conscience de la mort. C'est ces deux choses-là qui font que ben, on est arrivé aujourd'hui à un stade où on envoie des gens sur Mars et où on arrive à soigner des cancers. C'est parce qu'on est créatif et qu'on a peur de la mort et qu'on est conscient de la mort, même si on n'en a pas peur. Et c'est ces deux choses-là qui font que tant que l'IA n'aura pas conscience de la mort et ne sera pas créative, on est largement tranquille, à
C'est
mon
parce que
avis.
t'as conscience de la mort que t'es créatif.
Ouais, c'est
La
ça aussi,
créativité,
hein.
elle vient de la contrainte.
Aussi,
Bah, t'es créatif, t'as pas de
ouais.
contrainte. Tu
Ouais.
dois devoir bouger.
Je suis d'accord. Il faut être conscient de, faut être conscient de la vie, conscient de la mort, conscient de. Enfin, moi, le côté égoïste de ce que je fais, s'il y en avait un, ce serait de dire que je veux pas quitter ce monde en n'ayant rien fait, en n'ayant pas laissé un monde meilleur derrière moi. Ça peut paraître très égocentrique, mais moi, c'est ma vision des choses là-dessus. Elle est là et parce que j'ai conscience que ma présence sur cette terre est limitée. Et qu'il faut faire quelque chose quand on y est, quoi.
J'ai une petite question, alors ça me fait rire parce que c'est que dans le cadre de podcast que je peux poser ce genre de questions, mais est-ce que t'as un robot préféré?
Est-ce que j'ai un
Enfin,
robot
en
préféré?
d'autres termes, tu vois, je pense que t'as une veille quand même, en tout cas peut-être
Ouais.
plus vaste qu'on peut l'avoir. Justement, un use case ou quelque chose qu'on n'aurait pas forcément, dont on n'a pas forcément connaissance, mais
Non, après
voilà.
les robots stylés, c'est des robots qu'on voit tous, hein.
Ouais.
Les robots stylés qu'on voit pas tous, je peux pas en parler.
Y est.
Mais s'il y avait ouais un robot, franchement Boston Dynamics, c'est même le
Bon.
Tesla Bot, il est très bon et tout ça, mais Boston Dynamics sur l'équilibre et tout ça, sur la vitesse d'exécution, c'est impressionnant quoi. C'est des gens qui sont les meilleurs ingénieurs du monde et qui n'ont pas de budget, donc à partir de ce moment-là, on a des facilités. Mais nous en termes techniques, ça nous impressionne pour en avoir vu vraiment fonctionner. Après, aujourd'hui, faut pas oublier que on en est un peu la preuve. Il y a des gens qui sont meilleurs que nous là-dedans aussi. L'innovation technologique peut venir d'un gamin qui a 10 ans dans un garage. Et Boston Dynamics peut se faire taper par un gamin qui a 10 ans dans un garage. Parce que c'est l'accès à l'information, parce que l'IA, parce que Internet aujourd'hui. Moi, j'ai commencé l'impression 3D, j'avais 12 ans, avec une imprimante 3D que j'ai montée moi-même. Et aujourd'hui, bah, on n'est pas à l'abri d'un génie qui va débarquer à 10 ans, 12 ans et qui, en fait, va
Peut-être
débarquer
déjà
avec un
quelqu'un.
robot fait maison et qui va tous nous trouver le cul parce que il aura fait ça avec 1000 euros qu'il aura gagné sur ses 3 ans de Noël. Et puis, nous, on sera là avec nos équipes d'ingé et puis on fera, OK, d'accord, c'est cool.
C'est le jeu. Non, mais c'est super intéressant. Et d'ailleurs, justement, en ce moment, donc, on le ressent très bien. C'est la grande course à l'IA. Toutes les entreprises, même justement celles qui sont pas forcément dans cette thématique-là, s'y lancent. Est-ce que tu penses que la course, justement, à la robotique, c'est le prochain, grand, passage, on va dire?
Alors oui, entre gros guillemets, mais parce que aujourd'hui l'IA c'est bien,
Ouais.
il faut qu'elle soit appliquée. C'est la même chose que quand il y a eu la mode du Web 3 et des SaaS. Le SaaS c'est très bien. Je suis en train de monter un projet en SaaS aussi à côté pour un logiciel de pilotage d'entreprise qui nous sert d'abord à piloter nos entreprises à nous et qui sera peut-être commercialisable plus tard. Donc le SaaS c'est très cool. Moi j'adore faire du SaaS. J'ai pas de stock, j'ai deux développeurs qui tournent quasiment tout seul. C'est miraculeux de faire du SaaS. L'IA c'est pareil, c'est miraculeux d'avoir des IA, ChatGPT, etc. C'est quoi l'impact de ChatGPT sur ma vraie vie? C'est quoi l'impact, etc., etc. Aujourd'hui l'impact de mon robot autonome principal, c'est mon Thermomix qui va me faire à bouffer. C'est le métro qui va m'amener d'un point A à un point B en conduisant tout seul. Et ça, c'est l'application de l'intelligence artificielle et des algorithmes, etc., appliquée à la vraie vie. Et on va quitter cette bulle de c'est génial d'avoir un robot avec qui on parle sur Internet et qui nous répond, nous donnant des réponses beaucoup plus faciles sans avoir à réfléchir à OK, qu'est-ce qu'on fait de cette techno qui est putain de puissante et comment on l'applique à notre volonté d'action et à la croissance de l'humanité. Mais pour ça, c'est pareil, il faut faire ce qui est pas fait tout le temps par les boîtes et ce que nous on défend depuis le début, c'est remettre l'humain au centre des process. Remettre l'humain au centre de l'économie, remettre l'humain au centre du développement pour savoir comment les technos peuvent servir l'humain. Et c'est en servant l'humain qu'on rencontre son marché et ses clients, hein, parce qu'un truc qui sert l'humanité, moi je l'achète, hein. Mais des fois, c'est...
Tu disais que l'IA a pas d'impact, l'IA te permet quand même de booster ta productivité et ta performance sur des tâches que tu peux automatiser. Est-ce quelle place tu vois pour l'IA dans la robotique? Est-ce que il y a des synergies énormes comme Figma dont je te parlais juste avant, qui est une boîte aux US, ou est-ce que finalement le pont entre les deux il est encore trop tôt, c'est encore so early pour
Non, 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 il y a des
parler de ça.
synergies, il y a des synergies énormes. Après, pour revenir rapidement, l'IA ne sert pas à rien, parce que c'est vrai qu'elle sert à améliorer la productivité. Nous, on l'utilise, et dans le SaaS qu'on est en train de développer, d'ailleurs, tu as un assistant qui connaît toutes tes données et qui peut te prendre rendez-vous, répondre à tes mails, etc., comme si c'était toi qui répondais, parce qu'il connaît par cœur à force de t'apprendre. Donc ça gagne du temps et on l'utilise. Mais en fait, l'impact de l'IA sur la robotique, ça va vraiment être de, aujourd'hui, on a des robots qui servent à quelque chose. Qui servent à automatiser des tâches, qui servent à faire des choses que ben, qui sont chiantes à faire pour nous. Hein. On a inventé l'aspirateur parce que c'est chiant de passer le balai. Et on va pouvoir automatiser tout ça. Donc le challenge, il va être de définir la place de l'IA là-dedans. Je vous donne l'exemple du médical. Il y a une loi européenne qui est passée. Voilà, je peux pas mettre de l'IA n'importe comment dans mes dispositifs médicaux parce que c'est encore considéré comme très dangereux. Donc je passe d'une commercialisation qui passe de 6 mois à 3 ans parce que j'ai l'IA à l'intérieur. Donc mon IA, je la mets pas à l'intérieur. J'apprends mes algorithmes avec de l'IA et derrière, je mets mes algorithmes dans mes exosquelettes. Mais ça va être, c'est une révolution qu'il va falloir qu'on capte aussi parce que ben voilà, c'est demain l'IA ne va pas s'arrêter, contrairement au NFT par exemple. L'IA va être voilà, ça va être partout. Et on en verra une deuxième.
Et
On en verra une deuxième utilisation plus pérenne. Ça a été pareil avec la blockchain. Quand la blockchain est arrivée, il y a eu les NFT après la crypto. Tout le monde a dit les NFT, c'est le futur. Non, la crypto, c'est le futur. Le fait de pouvoir avoir un moyen d'identification inviolable, c'est le futur. C'est ça qui est important. Moi, je vais utiliser la blockchain dans mes exosquelettes pour avoir des numéros d'identification et de certification qui sont inviolables. Parce que mon challenge, il est là. Donc, une fois qu'on a passé ce côté de l'IA, pan magnifique avec des boîtes qui mettent AI, AI, AI partout. C'est quoi la vraie IA et comment on s'en sert pour faire quelque chose d'utile? Et le challenge, il va être là et ça va être le même dans la robotique. Hein. Quelle IA va être utile dans la robotique et c'est quoi l'IA dans la robotique? Est-ce que c'est quelque chose qui peut passer l'aspirateur automatiquement sans avoir scanné la maison? Ou est-ce que c'est un robot qui va te regarder dans les yeux et qui va te parler et qui va t'aider à faire les tâches du quotidien? Ça, c'est deux choses différentes qu'il va falloir définir
belle
aussi.
réflexion.
Et je pense qu'on arrivera plus vers la deuxième.
Avant de foncer sur des questions de sécurité et d'éthique, parce que tu me fais une passe toute droite, tu me permets aussi de glisser une phrase sur une start-up là que j'ai accompagnée il y a quelques semaines, qui galérait sur sa commercialisation. Aujourd'hui, la commercialisation fonctionne très très bien, et en fait, le gap entre les deux, c'est une phrase que j'ai prononcée, je pense, faut utiliser plus souvent, c'est qu'on s'en fout de la techno. Ce qui compte, c'est la valeur du clé pour le client. Et en fait, c'était une boîte dans la finance qui faisait que de parler de blockchain. On s'en foutait de la blockchain qu'il y avait derrière. Ce qui comptait, c'est la valeur pour le client. Et
C'est comme ça qu'on définit
finalement, c'est le
aussi nos
même discours.
exosquelettes. C'est comme ça qu'on définit nos exosquelettes et c'est ce qu'on discutait en off, c'est le problème pour les VC. Quand des fois on va voir des investisseurs qu'on leur dit mais en fait une de nos barrières à l'entrée, qui est pas vraiment une barrière mais un de nos éléments de différenciation, c'est que nous on a fait le design de l'exosquelette, on a fait des ateliers avec des gens qui sont atteints de handicap moteur, qui vivent ça au jour le jour, qui vivent une vie très compliquée pour certains, et on leur a dit qu'est-ce que vous voulez? Et ça, les mecs comprennent pas que c'est super important. Ils disent, non, il faut un exosquelette qui marche. Non, il faut un exosquelette avec des fonctionnalités qui plaisent au client. Et c'est ce que je te disais sur remettre l'humain au centre. Si tu as une bonne idée et que l'humain il est au centre de ton développement, bah, tu peux rien t'arriver. tu l'as bien fait avec la phrase qui leur a déclenché le, qui leur a fait faire un déclic. La techno, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, une tech, enfin, aujourd'hui, les Chinois, s'ils veulent, ils copient ma techno en moins d'une semaine. Ce qui est important, c'est les valeurs que
j'ai. Quoi, je sais pas si t'as vu le post LinkedIn que j'ai fait cette semaine, mais j'ai vu des dingueries en Chine. Effectivement, j'ai pensé à toi la semaine dernière. J'ai visité à Pékin, une boîte qui fait des robots et des bébés humains avec une IA dedans pour entraîner les parents à devenir parents et pour aider les gens qui ont des déficits affectifs, voir un humain leur donne de l'affection. Bref, c'est cringe de ouf. En tout cas, moi, je trouve ça cringe de ouf. Parce qu'ils ont plugué l'équivalent d'un ChatGPT qui parle très bien. En Chine, c'est des brutes en intelligence artificielle. Ils sont 2 ans au-dessus des US, 3 ans au-dessus de nous. Il y a pas de pas de question.
Non, mais c'est
ça, la robotique, c'est un truc de ouf.
C'est et puis même t'as qu'à voir dans le textile. Déjà, je regardais un truc la dernière fois. Chine met 2 heures entre le moment où ils reçoivent la photo du t-shirt à copier ou de la robe. Et la mise en industrialisation. Je veux dire, on parle de 2 heures. Les mecs, ils mettent 2 heures à copier un vêtement et à monter une chaîne d'indus. On est hors sol. Et du coup, ça prouve encore plus que la valeur qui doit être créée, c'est celle que tu fais avec tes clients, c'est ton image de marque, c'est, le cœur que tu vas mettre dans ton ouvrage voilà. Et aujourd'hui, on a plein de patients qui veulent travailler avec nous et pas avec nos concurrents parce que ils ont l'impression. Après, je connais pas la politique interne de nos concurrents, mais ils ont l'impression que nous, dans nos échanges et dans la façon dont on travaille, on est beaucoup plus humain et que ça reste lead point. Donc, il y a aussi le fait qu'on vende moins cher, où ils se disent, ils ont plus compris les problématiques. Mais il y a aussi notamment le design dont je vous parlais, qui est super important.
Ils sont confortables, les exosquelettes. Tu parles de design. Tout à l'heure, tu disais que les exosquelettes, tu veux qu'ils aient un design à la Apple, un truc très minimaliste, très agréable, etc., très luxe aussi. Est-ce qu'ils sont hyper confortables et qu'on est dedans, on peut pas les enlever?
Ouais, ils sont super confortables. C'est le but aussi. On a de la mousse sur nos aluminiums et tout ça, qui est de la mousse spéciale avec l'intérieur, à l'intérieur, un mélange d'aérogel, etc. Nous, notre but,
c'est là aujourd'hui, il ressemble au Vision Pro, c'est-à-dire que il est très sympa, très beau, mais finalement, quand tu l'as sur la tête pendant 2 heures, t'es content de l'enlever.
Alors après, ça va dépendre, ça va dépendre des handicaps. Ça va dépendre beaucoup des handicaps, puisque en fonction de ton handicap, t'auras pas la même façon de vivre ton truc, etc. Mais aujourd'hui, sur quelqu'un qui, par exemple, a de la marche résiduelle et tous ces trucs qui sont très agréables à porter, on est loin du truc chaussure de ski et de l'effet plaisir que ça fait d'enlever une chaussure de ski. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans notre design aussi, dans les tests ergo qu'on va réaliser, de toute façon avant commercialisation. Et pour nous, le confort et le design sont un point qui est à la même hauteur que la sécurité.
Ok. Et quand tu parles de sécurité, justement, je me pose une question. Là, t'as du software dans tes logiciels. Est-ce que moi, demain, je peux pirater Paul en l'occurrence, parce que moi, je suis nul en dev, mais est-ce que Paul peut demain pirater ton exosquelette et faire en sorte que moi qui porte ton exosquelette, je me retrouve à faire des mouvements non voulus? Et pour aller même plus loin, est-ce que si je mets une intelligence artificielle dans l'exosquelette et que l'intelligence artificielle me fait des trucs que je ne veux pas, l'exosquelette le réalise, est-ce que là-dessus c'est sécurisé, pas sécurisé?
Là-dessus c'est sécurisé.
On peut perdre le contrôle de l'exosquelette?
On a des protocoles de cybersécurité, on a des modèles d'accès en fait en physique pour les mises à jour qui peuvent pas être, enfin qui sont faits par nos techniciens, donc c'est du vérifié. C'est des protocoles qu'on agrémente aussi avec d'autres boîtes de la région qui développent justement des clés de sécurisation quantique qui seront des trucs à terme qui seront très utiles en fait. Et normalement, voilà, puisque là, les niveaux de sécurité qui sont pratiqués actuellement se craquent avec un ordinateur quantique en quelques secondes, voire quelques minutes, ce qui prendrait plusieurs milliards d'années sur d'autres trucs. Donc aujourd'hui, le challenge, il est de dire, quand tu fais de la cybersécurité, il y a toujours ce truc de dire, c'est quoi la menace, c'est quoi le coût que est prêt à mettre la personne qui veut mettre à exécution sa menace. Je suis pas sûr que tout de suite, étant donné qu'on n'a pas d'exosquelette commercialisé, les gens vont aller jusqu'à louer un ordinateur quantique ou en fabriquer un pour hacker notre exosquelette. Mais à terme, c'est de la sécurisation qu'il faut prendre en compte. Demain, Tesla se fait hacker, ben, c'est la fin de Tesla. Donc voilà, nous, ça va être par la mise en place justement de clés quantiques, quand est-ce qu'on peut plus beaucoup plus poussé et embarquable aussi surtout. Ça va être là sur de la mise en place d'un système, d'un potentiel système inviolable qui est d'ailleurs enfin, inviolable, rien n'est inviolable parce que tu peux y aller avec un pied de biche, mais un système justement de verrou par NFC, mais qui est beaucoup plus sécurisé que le NFC, qui est propulsé par une start-up française qui a d'ailleurs des contrats avec la défense, etc., qui est Akidaya, qui est une start-up de Sophie Antipolis, donc pour pouvoir accéder aux boîtiers, lancer des mises à jour, etc. Donc, c'est des protocoles qu'on met en place sur lesquels on fait attention. Même nous, au sein de l'entreprise, on a une politique cybersécurité qui justement est en train d'être renforcée encore, qui est assez impressionnante. Ce qui est relevé d'ailleurs par nos investisseurs ou nos partenaires quand on discute, parce que ben, c'est pas obligatoirement le problème d'une start-up, la cybersécurité au début. Et nous, on a directement là embauché un mec qui fait que ça chez nous. Donc voilà, c'est partie des points sur lesquels il faut faire attention.
Ils sont connectés d'ailleurs, les exosquelettes, c'est-à-dire, ben, est-ce qu'ils sont vraiment juste, du software qui est indépendant ou
À terme, l'idée, ce sera de les
totalement?
connecter, mais encore, c'est voilà, on parle RGPD, on parle tout ça, parce que c'est de la
Pas
donnée
mal de.
médicale. Ce qui pourrait être intéressant dans un monde parfait, c'est que la personne qui est atteinte d'un handicap moteur ou qui a besoin de faire la rééducation soit connectée à son médecin, puisse avoir que son médecin puisse avoir son retour directement. Il y a beaucoup de gens qui doivent faire des séances de kiné, mais c'est compliqué pour eux de se déplacer, donc il faut prendre une ambulance. Je vous laisse imaginer demain si avec un exosquelette à domicile, on peut faire des séances de kiné à distance. Tout ça.
Pour creuser ça, vous pouvez écouter notre super épisode avec Thomas de Hawkins, et puis il y a des super startups là, qui sont en train de se monter que j'ai autour de moi là-dessus pour faire de la santé connectée, de l'anticipation de maladies, des médicaments sur mesure, des traitements sur mesure, vraiment vraiment personnalisé, justement grâce à cette collecte de data. Parce que du coup, avec ton exosquelette, je suppose que je pourrais hyper facilement récupérer toutes les datas sur mon corps sur comment évolue
À
mon
terme,
corps dans
oui.
sa globalité.
À terme, oui, ce qui va nous permettre, bah, il faudra le faire valider de manière médicale. Donc là, ce sera du classe 2A, voire pourquoi pas 3, mais j'y crois pas trop, sur de la collecte de données, le traitement des données. Bon, après, bah, ça, c'est pareil, c'est des stratégies qu'on a mis en place. Les données sont stockées pas n'importe où, dans des centres qui sont justement à OHS, etc. Mais c'est des choses qui sont très importantes à prendre en compte parce que demain, bah, ça peut permettre sur certaines pathologies de planifier l'évolution de la pathologie en fonction des données en temps réel qu'on reçoit. C'est pas juste je fais un test, je vais voir chez le médecin ce que ça donne, et puis 6 mois plus tard je refais un test. Là je peux mesurer en temps réel l'évolution de mon truc, et derrière avec des je pense notamment à Antonia qui est justement la créatrice d'une startup qui s'appelle Neuropine à Sophia Antipolis, qui fait de la prédiction de maladies sur les maladies neurodégénératives, qui à terme pourra te dire que voilà, t'as Alzheimer dans 8 ans. Et qui du coup pourra permettre des traitements super super early stage. Ça peut servir à collecter des données et justement à faut il faut en fait la donnée c'est comme les réseaux sociaux.
Il développe.
De collecter de la donnée et de gérer de la donnée, c'est comme les réseaux sociaux. À la base, c'est une super idée. Enfin, les réseaux sociaux, c'est une super idée à la base. Tu parles de connecter des gens n'importe où dans le monde et que les gens puissent te suivre, que tes potes puissent te suivre. Mais il y a eu des dérives. Les données, c'est pareil. On parle d'un truc qui permet de générer des données pour apprendre à des IA à nous permettre de rester en vie plus longtemps et dans de meilleures conditions. À la base, c'est ouf, quoi. On est sur la vision du collectif. C'est les données du collectif qui vont permettre à des êtres individuels d'évoluer plus facilement et plus longtemps. Mais derrière, ça a été dérouté parce que la donnée, on en a besoin pour vendre. La donnée, on en a besoin pour les marchés financiers, la donnée, on en a besoin pour prévoir les catastrophes. Donc, c'est comme tout dans ce monde, tu as le bon côté et le mauvais côté.
Est-ce que y a d'autres limites, d'autres dangers qu'il faut avoir en tête quand on parle de robotique et d'intelligence artificielle éventuellement dans la robotique, mais déjà de robotique?
Le truc
Vraiment.
avec un robot, c'est que selon l'IA qu'il y a dans le robot, si on va jusqu'au bout du truc, en pensant à Terminator, c'est que ton robot, il a un accès au monde physique qui est beaucoup plus facilitant que l'IA classique,
Une machine.
qu'une machine. ton robot demain il décide que tu lui as mal parlé, il te met une claque, la claque avec 15 kilos d'acier envoyé dans ta tête, tu vas la sentir passer. Donc ça fait partie aussi des points d'interrogation et voilà, c'est surtout sur des robots qui peuvent. Je suis pas sûr que si ton lave-vaisselle ait une conscience et qu'il t'aime pas, tu en subisses gravement les conséquences.
S'il arrive à ouvrir la porte et qu'il inonde mon appart, je t'avoue, je serais peut-être pas très très content.
Et après, il t'électrocute.
Exactement.
Non, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut faire attention. Après, encore une fois, on en est loin, hein, à mon avis.
Ouais, on regarde très très loin.
Nous, on voit un peu les évolutions dans le centre du truc. Pour les LLM, les modèles de langage, ça évolue très vite. De là à faire une IA qui pense par elle-même, le cerveau humain est tellement compliqué, quoi, avec des réseaux et des réseaux de neurones, etc.
T'y crois à la strat de Neuralink? L'idée de réduire l'interface homme-machine et qu'on puisse contrôler un robot, un ordinateur avec la pensée?
Trop tôt.
Parce que là, ils arrivent à contrôler une souris.
Trop tôt.
À la pensée.
Trop tôt. C'est ce que je t'expliquais.
Ils y arriveront.
Oui, alors à mon avis, ils y arriveront, puisque Elon Musk généralement arrive aux fins qu'il a prévues, tellement qu'on se demande si ce mec-là vient pas du futur. Voilà, ce que je vous disais, il y a déjà des anti 5G. Moi, c'est pareil, je vais pas dormir à côté d'une borne Wi-Fi personnellement. Il y a des études très bien fondées qui prouvent que si tu dors avec ton téléphone scotché à la tête toute la nuit, tu peux avoir des problèmes derrière, de tumeurs, etc. Ou donc caler ça dans un cerveau H24, j'y crois pas tout de suite.
Ouais.
Après, dès demain, mettre ça sur des gens qui ont des besoins médicaux et sur lesquels le bénéfice-risque, ils vont considérer eux que je préfère remarcher et pouvoir guérir ma maladie en interne plutôt que de rester à ce stade-là de la pathologie, peut-être. Que demain on trouve un autre moyen d'éviter de faire des puces en silicone ou en terre rare et qu'on trouve des puces qui en fait n'émettent pas d'ondes et qu'on arrive à juste capter de la donnée, parce qu'il y a ça aussi sur le cerveau. Le cerveau c'est des signaux microélectriques. Quand vous pompez de la donnée, vous pompez des signaux microélectriques qui font le bon fonctionnement de votre cerveau aussi. Donc ils y arriveront pas tout de suite à commercialiser le truc, et puis je serai pas la première personne à me faire poser un iPhone dans la tête. Mais à terme, oui, il faut pas se voiler la face en disant que il y a une évolution humaine. Il faut qu'elle soit contrôlée et qu'on remette l'humain au centre, mais il y a une évolution qui fera que, au bout d'un moment, on aura un téléphone intégré, et puis ça arrangera certaines personnes et certains groupes qui en ont peur actuellement, mais qui embrasseront ça le moment venu. Je pense notamment à l'Europe qui, au début, avait peur de la crypto, c'était l'argent de la mafia et qui maintenant nous sort une monnaie européenne numérique qui permet du coup
attention,
d'éviter
attention, elle aura peut-être jamais lieu.
Hein. Ouais.
Potentiellement, ils veulent la fermer. Hein. Potentiellement, ils veulent la fermer.
On sait jamais, hein. On sait jamais. C'est très intéressant pour eux. C'est une monnaie dont tu peux contrôler les flux et sur lesquels t'as plus besoin d'imprimer de papier. Donc c'est encore mieux. Mais c'est pareil.
Enfin, un épisode là-dessus avec Owen Simonin pour nos très chers auditeurs qui pourraient vouloir envie de creuser un peu le sujet. Muy picante. Mathieu, j'avais une question pour toi. Tu vois les caméras qu'il y a dans le Vision Pro, dans la première version du Vision Pro.
Ouais.
Est-ce que pour toi, c'est une révolution au sens où cette précision qu'a Vision Pro pour, par exemple, clipper avec tes deux doigts ou voilà, est-ce que cette précision-ci, elle va pouvoir remplacer les joysticks?
Oui.
De ton.
Oui, clairement, ouais. clairement. Après, oui, alors oui et non, elle pourra remplacer les joysticks sur des gens qui ont complètement l'usage de leurs mains. Demain, t'as des spasmes ou quoi, tu peux pas utiliser ces technos-là puisque ta tête va te dire lève le bras, mais ton bras va partir parce que t'as un spasme, etc. Ça pourrait être amélioré avec
software, donc finalement on pourrait l'adapter.
On pourrait l'adapter au handicap, etc. Ce qui est impressionnant avec le Vision Pro, c'est justement comme disait ce tracking qui est d'une précision en faire pâlir les plus grands. Après, je pense que très honnêtement, pour suivre Apple de très très près, ils ont des choses en tête et c'était que le début. C'est comme pourquoi ils ont laissé tout le monde partir devant avec les téléphones comme le Hey et le Samsung AI Galaxy ou qu'ils ont une version de Siri. Enfin, aujourd'hui, quand tu parles entre Siri et ChatGPT, tu te rends compte qu'il y a quand même, il y a quand même un monde et trois falaises.
Ouais.
Pourquoi ils ont
Bah là, normalement, la
commencé
prochaine version de d'iOS est censée être
un peu fou
full
déjà.
full AI
Mais
et
c'est pas
normalement
leur, à mon avis, c'est
Siri
pas
est
leur but final.
censée
C'est pas leur but final.
être vrai, effectivement.
Apple, c'est des gens qui ils posent des, ils créent pas de la nouveauté. Ils posent des bases qui seront les bases de tout le monde après.
Ouais.
C'est pareil quand tu vois que voilà, ils ont commencé à lancer Apple Pay et puis là, ils vont se lancer sur un modèle bancaire, etc. Ils vont tout défoncer. Quand tu vois que ils commencent à faire ton téléphone quand tu tombes au fin fond du Grand Canyon, il peut quand même appeler avec les satellites. C'est
Ouais.
ouf ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain,
Ouais.
Apple a la capacité de lancer sa propre
Un
offre de
réseau, ouais.
téléphonie, son propre réseau satellitaire où tu vis ta vie à 500 mégabits seconde avec 5 barres de réseau. Pas besoin de déployer des antennes partout sur Terre. Ils ont déjà les satellites et ils te vendent l'abonnement téléphonique. Et ça
Ouais.
va devenir un, ça va devenir, enfin, bon, Apple sont des gens qui construisent des normes. Ce qu'ils ont fait avec le Vision Pro, c'est juste une petite annonce de ce qu'ils prévoient faire.
Ouais,
C'est,
non, c'est
ça va être
canon.
énorme. Ça va être énorme. C'est, moi, ce que j'aime beaucoup chez Apple, tu vois, qu'il n'y a pas dans d'autres boîtes, dans plein de boîtes, il y a ce côté innovation, on fait des trucs super innovants. Mais, Apple, ils font des trucs innovants et ils disent, ce sera comme ça dans 15 ans. Et personne, enfin, quand ils ont sorti l'iPhone au début sans stylet, etc., il y a des gens qui ont rigolé. Aujourd'hui, tu sors un iPhone avec un, bon, Samsung le fait toujours, on sait pas pourquoi. Mais aujourd'hui, tu sors un téléphone avec un stylet et tout le monde te fout, se fout de ta gueule.
Il y a encore des téléphones avec des stylets?
Non,
Ouais,
les Samsung. Mais,
je sais
certains
pas.
Samsung. Mais, les notes. Mais, c'est ça le truc, en fait. C'est la vision. Et c'est ce qu'on essaie de faire, tu vois, nous, au sein de Somanity, c'est de dire, on vend pas qu'une innovation, on vend une vision qui va devenir une norme. Et ça, c'est super important parce que quand ta vision devient une norme et que t'es le premier à mettre en place ta vision, derrière la norme, c'est toi qui l'as construit et t'as 15 ans d'avance sur tes concurrents.
Ouais, totalement. Et justement, pour revenir sur les exosquelettes, Paul, t'avais une question ou des
Ouais.
questions sur les use cases?
Bah, je vois que le temps passe, donc mais il y a une question qui me trotte un peu en tête, puis c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment, sur le fait que souvent bah, les nouvelles technologies creusent énormément d'inégalités entre ceux qui en tirent profit et les autres. Donc c'est qu'on en parlant du use case, par exemple justement de l'industrie et de l'utilisation des exosquelettes, que ce soit à la fois pour des petites PME ou même je parlais des garages automobiles ou des grosses usines, à quel point tu penses que ça va aussi creuser encore plus un écart compétitif entre les entreprises et permettre potentiellement aux entreprises d'exploser et
Après,
de se casser.
les écarts, oui, ça creusera de l'écart compétitif. Ça, y a pas de doute là-dessus. Mais l'écart, il est bien parce que c'est l'écart et la compétition qui poussent à l'innovation. Après, demain, pour l'instant, l'IA est un sujet d'exclusion pour les gens qui ne savent pas trop où mettre les pieds là-dedans et tout ça. Mais à terme, ce sera merveilleux. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas à l'abri d'un gamin de 10 ans qui pof au poteau Boston Dynamics sur un robot qu'il a construit. On n'est pas à l'abri d'un gamin qui a 15 ans et qui te pond, qui en récupérant un code open source d'un modèle LLM, te l'optimise complètement et en fait te sort un truc qui vient taper dans les dents d'OpenAI alors que les mecs, ils sont 500, ils ont les meilleurs ingénieurs en IA du monde. Donc oui, ça creuse certaines inégalités pour des gens qui n'ont pas accès à Internet, etc. Mais par contre, pour la majorité du monde, et aujourd'hui beaucoup, beaucoup de gens ont accès à Internet, ça te permet de construire n'importe quoi à partir de rien. Arthur le disait tout à l'heure, ça te permet d'automatiser un certain nombre de services. Aujourd'hui, il y a des boîtes que tu peux monter, tu peux être solopreneur et monter une boîte où les gens, ils ont l'impression que t'es 40, mais en fait, t'es tout seul parce que t'as tout automatisé et toi, tu viens juste apporter la touche créative, justement, dont on parlait.
Ok, donc tu penses que ce sera plutôt aussi une adaptation qu'à
Ouais.
une progressive
Mais
de.
enfin, je reviens sur mon exemple des réseaux sociaux de vieux cons qui utilisent des réseaux sociaux. C'est pareil, les réseaux sociaux, soit ça peut rapprocher les gens de manière très très forte, soit ça peut les isoler complètement. Et pourtant, à la base, c'était une des plus belles inventions de nos années 2000. Donc, c'est la même chose, c'est duel de la médaille. Après, il faut savoir utiliser la techno. C'est pareil pour ChatGPT, on dit ChatGPT va rendre les enfants plus débiles. Moi, ChatGPT me rend pas obligatoirement plus débile. ChatGPT me permet de gagner du temps sur un nombre de trucs qui est phénoménal. Donc ça va être la façon dont tu vas l'utiliser. Est-ce que tu veux faire de l'outil comme tous les outils, quoi? Une pelle, si tu décides de creuser un trou, ça fait du mal à personne. Si tu décides de l'enfoncer dans un crâne, ce sera plus problématique.
Tant que mon robot m'enfonce pas une pelle dans un crâne, ça va.
Tant que mon Thermomix m'attaque pas un matin quand je veux faire mes œufs, moi ça me va aussi.
Sympa la répartie. Paul, est-ce que tu avais d'autres questions ou pas?
Bon, moi, je pense qu'on a bien balayé, je sais pas comment on pense à Mattel, je pense qu'on a déjà un contour de. Est-ce qu'il y a des éléments que tu voulais qu'on mentionne? Vous n'avez pas forcément.
Non, c'était très clair. Je pense qu'on a couvert d'ailleurs plus de choses que la dernière fois qu'on s'est eu.
Parce qu'il faut savoir que c'est la deuxième fois qu'on enregistre cet épisode. La première fois, c'était déjà une galère.
On
Je
s'aime
me suis dit,
tellement
mais on est à
qu'on s'enregistre
Paris.
deux fois.
Et
C'est génial.
ouais.
Mais ouais, non,
On s'aime beaucoup, Mathieu. On s'aime beaucoup.
on est rentré dans des sujets plus deep, je pense, mais nous, on a aussi beaucoup plus avancé depuis la dernière fois qu'on s'est eu. Donc voilà, c'était un plaisir de pouvoir discuter de ces sujets avec vous. J'espère que cet épisode sera bien reçu et qu'on ne sera pas insulté d'utopiste pro-AI et pro-Elon Musk, puisqu'on a essayé de balancer quand même tout ce qu'on disait. Mais voilà, en tout cas, merci à vous de m'avoir accueilli, de m'avoir donné la parole aujourd'hui sur votre merveilleux
Et puis en
podcast.
plus, pour terminer un petit peu cet épisode, je ne sais pas quand est-ce que va sortir cet épisode. On en discutera Paul après, Mathieu aussi, mais potentiellement, c'est l'épisode qui clôture la saison 1. Potentiellement, c'est l'épisode qui clôture la saison 1 pour une saison 2 qui est encore en construction et à définir en fonction des contraintes des uns des autres et des enjeux des uns des autres. Donc, c'est un très bel épisode pour finir. Et puis en plus, ça fait une belle passe avec la création de Team Entrepreneurship. Donc Mathieu, tu feras peut-être partie, j'espère, que le temps que j'y consacre en ce moment. Non, mais nombreuses missions. Mais bon, est-ce que Mathieu, pour terminer cet épisode, il y a des sujets sur lesquels tu te poses des questions, mais t'as pas forcément de réponse auxquelles nos auditeurs peuvent réfléchir s'ils le souhaitent. Voilà. Des grandes questions philosophiques, ça peut être la place de l'IA, parce qu'on a vachement parlé d'IA, mais aussi, c'est pas l'éducation, la place de la déconnexion, je sais pas.
Bah, ce serait peut-être d'exprimer justement la philosophie de la boîte, de mesurer le degré d'humanisme que vous avez dans votre vie, l'impact positif que vous avez sur les gens, et qu'est-ce que vous seriez prêt à mettre en œuvre pour avoir encore plus d'impact positif et rendre cette société encore meilleure.
C'est quelque chose qu'on ne t'a jamais dit, ça, franchement. Ouais. Mais c'est bien, c'est dans la veine de Somanity, et puis c'est aussi plus que jamais dans ta philosophie de vie qui s'affirme de plus en plus avec la joie en vie.
On répétera
C'est
jamais
Mathieu, on
aussi.
commence à vieillir, là.
Ouais,
On
non,
répétera jamais.
ça. J'ai un monsieur qui est venu avec son fils. On était au salon de l'IA à Cannes. Et le gamin, il me pointe du doigt, il regarde son père, il dit, mais papa, le monsieur, il a 40 ans. Non, j'en ai 22. Ne sois pas méchant comme ça, petit enfant.
T'en as que 22, Mathieu?
Ouais.
Putain, je pensais que t'allais quand même sur les 24, là.
Non, 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 ne me
Ok,
vieillissez pas, s'il vous plaît. Éloignez-moi des 25 ans.
ah, c'est moi qui ai vu quoi dans l'histoire. Ok. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Ça a été un plaisir de tourner cet épisode. Merci à tous. Merci à vous. Merci à nos auditeurs depuis si longtemps maintenant. Ça fait une éternité. C'est toujours un plaisir de tourner ces épisodes. Et à très vite pour de superbes aventures, toujours plus folles les unes que les autres. Et foncez, suivez
Merci encore.
Somanity. Battez-vous pour être BA si Somanity, sur un malentendu, Mathieu acceptera. Pas sûr, vraiment pas sûr, mais tentez quand même, on sait jamais. Et à très vite. Au
Merci
revoir.
beaucoup, Adrien.
Salut.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.